À 17h59, Didi Warren était contente comme tout. Elle avait un mandat pour fouiller la voiture de Jason Jones, un rendez-vous avec la conseillère d'insertion et de probation d'un délinquant sexuel fiché, et mieux encore, c'était le soir des poubelles dans le quartier. Elle parcourait South Boston en voiture avec le capitaine Miller, histoire de repérer le terrain tout en préparant les coups suivants. D'après le capitaine Robert, expliquait Miller, Jones a fait profil bas cet après-midi. Aucun invité, aucune course, aucune activité. Il semble rester à la maison avec sa fille et mener sa petite vie. Est-ce qu'il est allé à sa voiture ? Demanda Didi. Non, il n'a même pas entrouvert la porte de la maison. Répondit Didi. Il a travaillé sur l'ordinateur ? Par la fenêtre de la cuisine, votre gars devait pouvoir le voir assis devant. J'ai posé la question, mais la réponse est incertaine. L'après-midi, le soleil empêche de bien voir par la fenêtre de la cuisine. Mais du point de vue professionnel de l'agent, Jones a passé l'essentiel de la journée à distraire sa gamine. Intéressant, dit Didi, et elle le pensait. Le comportement d'un conjoint après la disparition de l'être aimé est toujours source de réflexion pour l'enquêteur curieux. Le conjoint continue-t-il son train-train comme si de rien n'était ? Invite-t-il soudain une nouvelle amie pour qu'elle le console ? Court-il acheter des liquides inflammables et ou des outils électriques peu courants ? Dans le cas de Jason Jones, son comportement se caractérisait essentiellement par ce qu'il ne faisait pas. Ni famille ni amis qui viendraient l'épauler, voire l'aider à s'occuper de sa fille. Pas d'excursion au magasin de fourniture de bureau pour agrandir des photos de sa femme disparue. Pas de saut chez les voisins pour poser des questions d'usage. « Salut, vous n'auriez pas vu ma femme par hasard ?» ou entendu quoi que ce soit d'inhabituel hier soir ?« Oh, tant que j'y pense, vous n'auriez pas aperçu un chat orange ?» La femme de Jason Jones avait disparu. Et il ne faisait strictement rien. Presque comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'on la retrouve. Didi trouvait cela fascinant. « Bon, dit-elle, puisque Jason nous attend sagement, je crois qu'on devrait réserver notre première visite à la conseillère d'insertion d'Aidan Brewster. Nous avons monsieur le mari suspect bien en main. C'est le moment de nous renseigner sur monsieur le voisin criminel. »« Ça me va, » répondit le capitaine Miller. « Vous savez quoi ? Demain, c'est le jour de ramassage des ordures dans le quartier. » ajouta-t-il avec un signe de tête vers les poubelles qui commençaient à proliférer sur le trottoir. À l'intérieur du domicile, les déchets sont une propriété privée et exigeant un mandat. Sur le trottoir, en revanche... Et si vers 2-3 heures du matin, je demandais à un agent de passer prendre les poubelles des Jones, ça nous donnerait quelque chose à fouiller demain matin ? Ah, capitaine, vous lisez dans mes pensées. J'essaie, répondit-il avec modestie. Didi lui fit un clin d'œil... et ils retournèrent en ville. Colin Pickler accepta de les recevoir dans la pièce sans âme qui lui tenait lieu de bureau. Le sol était en lino gris clair, les murs peints en gris acier et les classeurs arboraient une finition gris terne. Colin, en revanche, était une Amazone athlétique d'1m80, dotée d'une chevelure outrageusement rousse et vêtue d'une veste rouge profond sur un t-shirt kaléidoscopique dans les oranges, jaunes et rouges. Lorsqu'elle se leva derrière son bureau, on aurait dit qu'une torche venait de s'embraser au milieu d'un banc de brouillard. Elle traversa la pièce en trois enjambées décontractées, leur serra vigoureusement la main et leur indiqua les deux fauteuils bas de couleur bleue au bas du bureau. « Excusez la grisaille, » expliqua-t-elle d'une voix enjouée, « je suis principalement des délinquants sexuels. » Et l'État a l'air de penser que toute autre couleur que le gris risquerait de les stimuler excessivement. « Comme vous le voyez, » ajouta-t-elle en montrant son t-shirt, « je ne suis pas de cet avis. »« Vous travaillez surtout avec des délinquants sexuels ?» s'étonna Didi. « Absolument, la crème des remis en liberté conditionnelle. Les dealers d'héroïne et les petits malfaiteurs détalent à la seconde où ils respirent à l'air libre. Pas moyen de les retrouver, pas moyen de leur faire remplir le moindre bout de papier. » Pas moyen d'obtenir qu'ils assistent à une réunion, alors que les délinquants sexuels ne demandent en général qu'à faire plaisir. Miller levait de grands yeux vers Pickler, comme en transe. « Vraiment ?» demanda-t-il en caressant sa fine moustache brune. Il maîtrisa un instant son tic, puis recommença. « Mais oui, la plupart de ces types sont morts de peur. La prison a été la pire expérience de leur vie et ils seraient prêts à tout pour ne pas y retourner. » Ils sont très dociles et même avides de notre approbation. Faut voir, les pédophiles les plus indécrottables se présenteraient quasiment tous les jours. Je suis leur seule relation avec un adulte et ils veulent s'assurer que je suis contente. Didi, l'air sceptique, prit un siège. Donc ce sont juste des types comme vous et moi? Pickler haussa les épaules. Autant que n'importe qui. Sauf que, si vous êtes là, évidemment, c'est que vous pensez que quelqu'un a fait des bêtises. De qui s'agit-il? Didi consulta ses notes. Brewster, Aidan Brewster. Aidan Brewster, répéta Pickler comme un perroquet. Impossible. Très possible. Autour de Pickler de paraître sceptique. Mais ensuite, elle se retourna vers le premier classeur gris et commença à chercher B, B, Brewster, Aidan, nous y voilà. Mais je peux vous dire tout de suite que c'est un bon gamin. Pour un délinquant sexuel fiché, ironisa Didi. Oh, je vous en prie. Vous voyez, c'est là que le système devient contre-productif. D'abord, il a réussi à jeter l'opprobre sur toute une catégorie de délinquants et ensuite, il a élargi cette catégorie de manière exagérée. D'un côté, vous violez 30 gamins, vous êtes fiché comme délinquant sexuel. De l'autre, un jeune de 19 ans a des relations consenties avec une gamine de 14 ans et il sera lui aussi fiché comme délinquant sexuel. C'est comme de mettre le tueur en série dans le même panier que celui qui a collé un œil au beurre noir à sa femme. D'accord, ce sont tous les deux des ordures, mais pas le même type d'ordure. Et quel genre de délinquant sexuel est Aidan Brewster ? Demanda Didi. Le jeune de 19 ans qui a eu des relations consenties avec la copine de sa demi-sœur, 14 ans. Il est en liberté surveillée à cause de ça ? Il a fait 2 ans de prison à cause de ça. Si elle avait eu 1 an de moins, il en aurait pris pour 20 ans. Ça lui apprendra à garder sa braguette fermée. 14 ans, c'est trop jeune pour donner son consentement, intervint Muller, qui avait finalement pris un siège. Le jeune de 19 ans aurait dû le savoir. Pickler ne contesta pas. C'est une leçon que Brewster va avoir le reste de sa vie pour apprendre. Vous savez, devenir délinquant sexuel est un aller sans retour. Brewster pourrait se tenir à carreau pendant 30 ans, qu'il serait toujours fiché. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'il postulera pour un emploi, qu'il cherchera un appartement ou qu'il franchira les frontières d'un État, il apparaîtra dans le fichier. C'est lourd à porter pour un jeune de 23 ans. « Comment le prend-il ? » demanda Didi. « Aussi bien qu'on pourrait s'y attendre. Il suit une thérapie pour délinquants sexuels et se rend à ses séances hebdomadaires. Il a un appartement, un boulot, un semblant de vie. »«
Un appartement ?» reprit Didi.
Pickler indiqua une adresse correspondant à celle que l'équipe de Didi avait déjà trouvée dans les fichiers.
« Le propriétaire est au courant ?» demanda Didi.
« Je l'ai informé, » répondit Pickler. « Ce n'est pas la procédure standard pour sa catégorie de délit, mais je me dis toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Si le propriétaire l'avait découvert plus tard et l'avait subitement jeté dehors, ça aurait pu être une source de stress et de tension. Peut-être le début d'une dérive. En tant que conseillère d'insertion d'Aidan, je me sens le devoir de l'aider à éviter les perturbations inutiles. »
Comment la propriétaire a-t-elle pris la chose ?
Elle a voulu entendre toute l'histoire et pouvoir m'appeler en cas d'urgence. Ensuite, elle a semblé s'en accommoder. Vous seriez étonné du nombre de gens qui réagissent comme ça. Ils veulent juste savoir d'emblée.
Et les voisins ? Insista Didi.
Je n'ai pas averti les voisins ni le commissariat, répondit vivement Pickler. Brewster figure dans le fichier de localisation des délinquants sexuels, évidemment, et il m'a semblé que ça suffisait, étant donné le risque qu'il présente et le stade où il en est dans sa thérapie.
« À savoir ?» interrogea Miller.
« À savoir qu'il s'en sort très bien. Cela fait presque 2 ans qu'il habite au même endroit, qu'il occupe le même emploi et qu'il fréquente le même groupe de soutien hebdomadaire.
Des remis en liberté comme lui, j'en voudrais tous les jours. »
« Une vraie réussite ?» railla Miller. Pickler haussa les épaules. « Autant qu'on peut en attendre. Écoutez, je fais ça depuis 18 ans maintenant. » 60% de mes remis en liberté finiront par comprendre. Peut-être pas du premier coup, mais ça viendra. Mais les 40% restants, dit-elle en haussant à nouveau les épaules. Certains retourneront en prison, d'autres se noieront dans l'alcool, quelques-uns se suicideront. Techniquement, ils ne récidivent pas, mais je ne suis pas sûre que j'appellerais ça une réussite. Et puis il y a les Aidan Brewster de ce monde. Du point de vue d'une conseillère d'insertion, c'est un gars bien, c'est tout ce que je peux vous dire.
Son emploi ? Demanda Didi d'un air contrarié. « Le garage du quartier, chez Vito. Il est vraiment doué de ses mains, ça l'a aidé à s'intégrer plus facilement que d'autres. »
Didi en prit note.
« Vous dites qu'il y est depuis 2 ans ?»«
C'est leur meilleur mécano, » précisa Pickler. « Son patron, Vito, ne tarit pas d'éloges sur lui. Sur le plan professionnel, il assure, ce qui n'est pas négligeable étant donné les frais auxquels il doit faire face actuellement. »«
Quels frais ? » demanda Miller.
« La thérapie ?
Les délinquants sexuels doivent acquitter les frais de leur traitement. Dans le cas de Brewster, cela signifie qu'il débourse $60 par semaine pour sa thérapie de groupe. Ensuite, il y a le coût de son passage régulier au détecteur de mensonges, $150 tous les 10 mois, histoire de vérifier qu'il est sur la bonne voie. S'il a un bracelet de cheville, il faudrait aussi qu'il casque pour ça, mais il a eu la chance de sortir un an avant que la surveillance électronique ne devienne la norme. Et puis, il doit payer un loyer à Boston, ses transports, etc. Pas donné pour quelqu'un qui démarre dans la vie avec des choix professionnels limités. « Parce qu'il n'a pas le droit de côtoyer des enfants, vous voulez dire ?» demanda Didi. « Exactement. Donc même dans un petit garage, Brewster peut seulement travailler sur les voitures, jamais à l'accueil. Après tout, on ne peut jamais savoir quand une femme pourrait se pointer avec 2,2 enfants. « Mais c'est un bon employé. »« Le meilleur, » répondit Colin avec un large sourire. Vito peut le tuer à la tâche sans que le gamin se plaigne parce qu'ils savent tous les deux qu'il ne peut pas démissionner d'un claquement de doigts pour aller bosser ailleurs. Les gens croient que les délinquants sexuels ne trouvent pas d'emploi. En réalité, il y a des employeurs malins qui ne demandent pas mieux que de les embaucher. Miller ne comprenait pas. Pauvre petit Aidan Brewster. Il n'a pas su se tenir avec une gamine de 14 ans, alors maintenant on devrait tous le plaindre. Ce n'est pas ce que j'ai dit, répondit Colin calmement. Il y a des lois. Je dis juste que dans le système judiciaire en général, quand on a commis un délit, on purge sa peine. Brewster est allé en prison, mais il purge toujours sa peine et il la purgera pendant le restant de ses jours. L'ironie de la chose, c'est que sa situation serait légèrement meilleure s'il avait tué la fille au lieu de coucher avec elle. Et en tant que membre du système judiciaire, cette analyse me met mal à l'aise. Mais Didi cogitait déjà sur autre chose. Elle se tourna vers Miller. « Vous savez où les Jones faisaient entretenir leur voiture ?» Il secoua la tête, griffonna une note. « Je vais me pencher sur la question. » « Qui sont les Jones ?» demanda Colin. « Jason et Sandra Jones, ils vivent dans la même rue qu'Aidan Brewster. » Sauf que quelque part au milieu de la nuit dernière, Sandra Jones a disparu. Ah, soupira Colin. Elle recula dans son fauteuil, croisa les doigts derrière sa chevelure de feu. Vous pensez qu'Aidan a quelque chose à y voir? Obligé de l'envisager. Quel âge a Sandra Jones? 23 ans, professeur en 6e au collège, maman d'une fillette de 4 ans. Donc vous croyez qu'Aidan a enlevé cette maman chez elle en pleine nuit en présence de son mari? Le mari était au travail, il est journaliste. Colin plissa les yeux. « Vous pensez que Brewster en avait après la gamine ?»« Parce qu'Aidan est passé 4 ou 5 fois au détecteur de mensonges après avoir fourni un historique complet de sa sexualité, jamais la pédophilie n'a été évoquée. »« Je ne sais pas ce que j'en pense, » répondit Didi, « sauf que tout le monde s'accorde à dire que Sandra Jones est une très jolie femme et il faut voir les choses en face. Ce n'est pas très vieux, 23 ans. Au juste, ça lui fait quoi? Le même âge que Brewster ?»« Le même âge, » confirma Colin. « Donc, nous avons une jolie maman et un délinquant sexuel fiché qui vivent à peine à quelques maisons l'un de l'autre. Aidan ne serait pas séduisant par hasard. »« Si, des cheveux blonds hirsutes, des yeux bleus, un peu le genre surfeur, mais mignon. » Miller leva les yeux au ciel. Didi, de son côté, continua à exposer sa théorie. « Donc, le mari de Sandra travaille presque tous les soirs, de sorte qu'elle est souvent seule, isolée avec la gamine. » Peut-être qu'un soir où elle se trouve dans le jardin avec sa fille, Aidan passe par là, entame la conversation. Peut-être que, suite à la conversation, ils ont une liaison et que, suite à la liaison, elle s'enfuit avec lui, proposa Colin. Ou alors, ils se disputent. Elle découvre son passé, elle est furieuse. Après tout, il a fréquenté sa fille et tout le monde dit que Sandra Jones ferait n'importe quoi pour elle. Donc il la tue, conclut Colin, impassible. Comme vous dites, ces types seraient prêts à tout pour ne pas retourner en prison. « Donc Aidan Brewster séduit la voisine esselée, puis il la supprime pour brouiller les pistes. » Autour de Didi de hausser les épaules. « On a vu plus bizarre. » Colin soupira, prit un crayon, fit rebondir une demi-douzaine de fois le côté gomme sur la table. « D'accord. Notez qu'à mon sens, vous êtes à côté de la plaque. Aidan a déjà eu une liaison dangereuse une fois et il l'a payée au prix fort. Alors je crois que s'il voyait une femme comme Sandra Jones dans son jardin, il ferait demi-tour et partirait en courant. » Inutile de tenter le diable, pas vrai? Mais c'est un fait que Sandra Jones a disparu et qu'Aidan Brewster est le pauvre gars qui habite dans sa rue. Autant respecter les procédures et vérifier de ce côté. Contente de vous l'entendre dire. Colin fit encore rebondir 2 fois le crayon. Quand? Le plus tôt serait le mieux. Nous essayons d'en faire le plus possible avant que la nouvelle ne se répande. Nous estimons qu'à 7 heures demain matin, Sandra Jones aura disparu depuis plus de 24 heures.
ce qui signifie que son affaire deviendra officiellement une affaire de disparition et que les médias seront attirés comme les abeilles par le miel. Vous m'avez comprise. Colline Gromla, vous dites qu'elle est jolie, jeune maman, enseignante. Ouais, vous êtes dans la merde. Complètement. Ok, vous m'avez convaincue. Je vais rendre visite à Brewster ce soir. Faire un petit tour dans son appartement, l'interroger sur ses activités récentes, voir si je flaire quoi que ce soit qui justifie une enquête plus approfondie. Nous aimerions vous assister lors de cette visite. Colline arrêta de faire rebondir le crayon. « Pas question, » répondit-elle fermement. « Vous n'êtes pas officier de police judiciaire, » riposta Didi. « Si en inspectant cette maison, vous voyez du sang, des traces de violence, du désordre, vous ne pourrez pas les saisir comme élément de preuve. Je pourrais vous appeler. » Ce qui préviendra Brewster de notre arrivée. Alors je m'assierai avec lui sur le canapé pour qu'on vous attende ensemble. Écoutez, en tant que conseillère d'Aidan, j'ai passé 2 ans à construire une relation avec lui. Si je l'interroge, ces 2 années le pousseront à me répondre. Si vous l'interrogez, il se refermera sur lui-même. Vous n'obtiendrez rien. Didi pinça les lèvres, tout à la fois têtu et résigné. C'est un bon gamin, insista doucement Colline. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça m'étonnerait vraiment que ce soit lui. Vous avez déjà vécu ça, intervint Miller d'une voix égale. La récidive d'un de vos délinquants sexuels. Colline acquiesça, 3 fois. Vous le voyez venir ? Pickler soupira à nouveau. Non, reconnut-elle avec simplicité. Les 3 fois, je ne me suis jamais doutée de rien. Les types s'en sortaient bien, ils supportaient la pression. Jusqu'à ce qu'un beau jour, ils craquent. Et ensuite, impossible de revenir en arrière.